Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le 6e épisode du CKB Show. Alors le CKB Show, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un podcast qui traite essentiellement de Chrome OS et évidemment de tout ce qui gravite autour de lui. Alors ça va forcément passer par les Chromebooks, les Chromebase, les Chromebits, les Chromebox, mais également les Chromecast, ainsi que tout ce qui est système d'exploitation donc comme Chrome OS, ainsi que les extensions et les applications Chrome que vous retrouverez évidemment sur Chromebook et sur tous les appareils, mais également sur vos ordinateurs classiques, on va dire Windows et Mac. Et maintenant, nous allons aussi aborder les sujets autour de Android, puisque nos Chromebooks deviennent de plus en plus compatibles au Google Play Store, et forcément les applications Android débarquent progressivement sur les Chromebooks, et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui, et comme à l'accoutumée, j'ai Thomas qui nous accompagne, et cette fois ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Salut Nico, ça va et toi ?
Ah bah ça va très bien. Alors pour une fois, comme je le disais, c'est moi qui me lève tôt et c'est toi qui te couches tard. Chez moi il est 7h, non maintenant il est 8h30, on a commencé un peu tôt, mais il est 8h30 et toi il doit être pas loin de minuit, puisque ouais. tu es dans un environnement américain très très loin de nous.
Exactement, ouais, il est bientôt minuit ici et donc ouais, si j'ai l'air un peu plus fatigué que d'habitude et si toi Nico t'as l'air un peu plus en pleine forme que d'habitude, c'est juste qu'en effet on a échangé les rôles. C'est la fin de la journée pour moi et toi tu viens juste de te réveiller.
C'est ça, j'ai pris plein de café comme toi tu fais d'habitude, j'ai suivi tes conseils et c'est la forme. C'est parfait. Alors au programme de ce nouveau CKB Show, alors on a pas mal de choses à vous dire. On va comme d'habitude parler des news. Alors il y a plusieurs news qui nous intéressent. On va parler de l'impression sur Chromebook. On va parler rapidement d'un nouveau petit gadget, on va dire, de photobook sur Chromebook. Des nouveautés sur le Google Play Store qui arrivent progressivement sur pas mal d'appareils. Et puis la contre-attaque de nos amis Microsoft qui se réveillent et qui pensent que les Chromebooks sont dangereux. Et des mises à jour, des applications et encore quelqu'un qui va nous narguer, Thomas qui a un nouveau jouet et qui va encore nous en parler, qui va encore énerver beaucoup de monde je pense. Et ensuite, comme depuis 3 ou 4 épisodes, on va traiter d'un dossier, un peu plus large, un peu plus important. Cette fois c'est la sécurité sur nos Chromebooks. Alors la sécurité très importante, depuis quelques mois on en parle, je dirais un mois, et nos Chromebooks ne sont pas exempts de sécurité, on va en parler, vous verrez, c'est plutôt intéressant. Alors, au programme de ce Chromebook, on parle principalement de l'impression locale. Alors, l'impression locale sur Chromebook, c'était attendu par beaucoup de monde, c'était décrié par beaucoup de monde. Les Chromebooks avaient une grosse difficulté à imprimer, ce qui est assez dommage, je dirais. Je sais pas, Thomas, est-ce que t'as déjà essayé d'imprimer sur un Chromebook ? Avec un Chromebook, pardon.
Ouais, ça m'arrive assez souvent, mais moi en fait j'utilise comment ça s'appelle, Google Print, c'est ça,
Google Print,
le système
ouais.
de Google, c'est ça, ouais, qui permet donc de se créer un compte, de connecter son imprimante à Google Print et après du coup d'imprimer à partir de n'importe quel matériel qui supporte Google Print. Donc en l'occurrence c'est tablette Android, téléphone Android, Chromebook. Et Chrome OS et Chrome, le navigateur Chrome aussi, ouais. Qui supporte Google Print. Voilà, ça y est, c'est la fin de la journée qui se matérialise. Ça, j'ai des trous de mémoire.
On a café.
mais c'est ça. Mais c'est assez intéressant de voir que oui, là c'est on parle de connecter un ordinateur à une imprimante de la même façon qu'on a toujours fait sous Windows ou sous Mac. Je suis assez curieux en fait de savoir quelle est la différence toi en termes d'usage en fait. Comment est-ce que tu catégoriserais l'impression locale par rapport à Google Print ? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus que Google Print ne t'offrait pas avant ?
Alors moi j'utilisais beaucoup Google Print, hein. Pour te dire, je l'utilise toujours, même si l'impression locale est arrivée, j'ai pas changé forcément mes habitudes d'utilisation. Par contre, ce qui va être sympa, c'est pas pour moi ou toi, c'est pas pour les chromies ou les passionnés, c'est plutôt pour ceux qui voilà, ils ont une imprimante à la maison, ils ont pas envie de se prendre la tête avec créer un compte chez Google Print ou autre chose comme ça. Ce qui est juste intéressant, c'est à l'ancienne finalement, tu branches ton imprimante sur ta box à la maison, tu trouves l'adresse IP et voilà, ça y est, et t'imprimes comme si t'étais à la maison, et donc t'as pas de pour t'as, oh, si on va parler de sécurité, donc déjà tu peux être rassuré, personne va venir imprimer chez toi à ta place, tu vois ce que je veux dire. Et
ouais.
ça apporte pas grand chose de plus, je dirais même un peu moins puisque ça limite à ta maison, mais ça va apporter une sérénité, une simplicité d'utilisation. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que elle supporte les imprimantes qui ne sont pas supportées par Google Print, parce qu'il y a certaines imprimantes qui sont pas supportées.
Ce que je suis en train de me dire.
Là, par exemple, j'ai une vieille imprimante. Alors, j'ai essayé une vieille imprimante Canon qui a, je me retournais parce qu'elle est derrière moi, qui a, je sais pas, elle doit avoir 10 ou 15 ans. Je l'avais jamais rallumée. Et je l'ai sortie juste pour le fun, pour voir si ça marchait. Bon, j'ai pas d'encre dedans, hein, donc j'ai pas vu si elle imprimait. Mais en tout cas, la page est partie. J'ai entendu les aiguilles, j'allais dire, de l'imprimante. Non, pas les aiguilles, le chariot de l'imprimante bouger. Et bon, j'imagine qu'elle imprime, mais mon encre est un peu sèche. Alors du coup, j'ai pas vu si ça imprimait vraiment. Par contre, elle est prise en compte et ça fonctionnait. Ça m'a pris cinq minutes à la paramétrer. C'est assez bluffant. Et pas de driver. Alors que je me souviens, celle-ci, je l'avais branchée sur un vieux Windows. J'avais galéré parce que les drivers, ils étaient pas fournis avec à l'époque. Il a fallu que j'aille sur le site de Canon. Elle était encore pas référencée. Enfin, j'avais grave galéré à l'époque. Et là, elle l'a reconnue tout de suite. Alors, sur le listing, dans l'impression locale de Chrome OS, sur le listing, t'as je sais pas combien de dizaines, voire centaines de références d'imprimantes et des constructeurs qu'on ignorait peut-être en France, en tout cas. Et c'est assez bluffant et on peut choisir les pilotes, j'imagine c'est des pilotes dans le listing. Enfin, quand tu sélectionnes, il doit avoir les pilotes intégrés quelque part, mais tu cliques dessus puis pouf, ça fonctionne. Et si t'as pas la bonne référence, tu prends une imprimante similaire ou pas trop éloignée et ça marche aussi. J'ai fait ça avec une HP Desktop Pro, je sais plus quoi là. J'avais pas la référence, la 8601 je crois, et j'ai pris la 8600 et c'est passé nickel et ça imprime parfaitement.
D'accord. Donc, bon bah écoute, c'est bon à savoir tout
une
ça.
Une bonne avancée. Alors pour ceux qui sont pas pro Chromebook et compagnie, ils sont en train de rigoler dans leur coin. Ils disent ah les cons, ça y est, ils commencent à savoir imprimer. mais oui, on commence. Mais sauf qu'on n'a pas fini. On va vous étonner après parce que c'est le début de beaucoup d'autres choses. Typiquement, peut-être qu'un jour on va même pouvoir scanner.
C'est exactement la blague que j'allais faire en fait.
Je te l'écrise. Non mais j'entends.
Ok, aujourd'hui on fait qu'imprimer, mais demain on scannera les documents.
On va révolutionner les choses, comme pourrait dire Apple d'un téléphone. On peut déjà scanner, hein, il y a plein de solutions, mais scanner facilement, ça l'est. Enfin, simplement avec une imprimante, c'est plutôt difficile, je dirais. Enfin, avec un scanner,
c'est encore un petit peu
galère.
C'est
pas encore évident, mais par contre, il y a déjà des trucs qui marchent pas mal. Il y avait François Beaufort qui avait lancé une application qui s'appelle une application Chrome OS qui s'appelle Scan, qui marche pas mal avec pas mal de scanners. Alors, moi, j'ai essayé avec c'était une du boulot, donc ça avait marché. Par contre, celle à la maison, elle marche pas du tout. C'est pas grave, de toute façon il y a longtemps que j'utilise plus de scanner, j'utilise mon smartphone avec l'application Drive, Google Drive, qui a une scan de documents qui est juste parfait. Enfin moi je kiffe cette application là et l'avantage c'est que c'est directement sur mon Drive, et quand je scanne un document, c'est souvent pour le stocker ou l'envoyer par mail. Alors forcément avec mon Google Drive, je sais pas si tu l'utilises sur ton smartphone Android. L'application, voilà, ouais, je scanne et tu l'as directement dessus, puis après j'ai plus qu'à faire envoyer par mail ou en pièce jointe et ça marche, ça m'évite pas mal de manipulations finalement. Donc pour l'instant moi ça me gêne pas, certains plus, mais moi ça me gêne pas. Quand on parle de...
Non, c'est un bon ouais, scan. Ah, je suis désolé, je t'ai coupé dans ta transition, mais c'est juste pour dire que c'est un très bon scanner d'appoint. Et c'est vrai que de moins en moins on a besoin d'un scanner. Aujourd'hui, quand on a besoin d'envoyer un document, le capteur de caméra des téléphones sont tellement bons qu'on arrive finalement à avoir un résultat qui est aussi bon qu'un scanner. Ouais. Un scanner d'un combo imprimante scanner.
Ouais,
quoi.
Et puis le traitement logiciel qui est derrière qui va éliminer. Alors ce qui est important, quand je l'utilise, en fait, quand je prends un scanner avec mon smartphone, je le pose sur un plan qui est assez foncé, beaucoup plus foncé que mon image, parce que comme ça Google va automatiquement la cadrer. Donc c'est plutôt sympa.
D'accord.
Et ça enlève tous les bords et t'as vraiment ton image qui est parfaitement scannée, nickel. Et puis il balance un espèce de filtre dessus qui fait ressortir les caractères. Et donc du coup souvent c'est mieux que mon Chrome, enfin qu'un qu'un scanner classique pour du texte. Après, peut-être que pour les images, je fais pas forcément d'images, mais peut-être que pour les images, c'est pas judicieux, mais voilà. Après, ça va venir, vous inquiétez pas. Maintenant, on s'est imprimé, alors dans peu de temps, on va scanner, ça va être génial. En parlant de photos, justement, Google, pendant le Google I/O où tu as été présent et notre ambassadeur, d'ailleurs, tu nous en parleras peut-être un petit peu à la fin ou quand tu veux, d'ailleurs. Google a annoncé un truc qui m'a plu, qui s'appelle Photobook, qui permet depuis l'application Photo, j'en ai parlé sur My Chromebook d'ailleurs, qui permet depuis l'application Photo de créer des directement, donc depuis notre Chromebook, hein, pour info, qui permet de créer directement des livres de vos photos prises avec votre smartphone en quelques minutes. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que sur Chromebook, c'est toujours assez compliqué. Alors, je sais pas si certains d'entre vous essayent de faire des livres photos depuis un Chromebook, mais souvent, il faut télécharger une application du site web qui fait les photos. Et sur Chromebook, c'est pas possible, voire c'est carrément impossible pour la plupart. Il y a certains sites qui peuvent faire des photos via le navigateur web. Par contre, la plupart, faut télécharger une application et on peut pas le faire sur Chromebook. Et là, Google arrive sur le marché. Alors, moi, je suis plutôt content parce que alors moi je fais pas de les livres, ça m'intéresse pas plus que ça, mais mon ami fait de la photo, donc du coup les livres ça l'intéresse beaucoup et j'ai pas pu l'essayer parce qu'en France il est encore pas libéré, mais toi tu vas pouvoir l'essayer, tu vas dans quelques temps, en plus vu que t'étais au Google I/O t'en as des gratuits, voire au minimum un, voire peut-être plus, et en fait il y a plus qu'à sélectionner les photos qu'on veut depuis l'application photo, les balancer dans le livre photo et c'est fini. Alors la différence, c'est pas d'application, pas d'upload de vos photos sur un serveur quelconque puisqu'elles sont déjà uploadées au moment où vous l'avez fait. Et puis surtout, c'est la force de Google derrière. Les tarifs sont à défier tous les concurrents puisque on est en moyenne 10 à 15 dollars de moins que les concurrents pour une qualité suprême de photos sur du papier recyclé haute valeur, enfin haut de gamme. Donc je sais pas ce que t'en penses toi Thomas, mais moi je suis assez convaincu par ça.
L'idée est assez intéressante. Je suis pas, j'avoue, pour être très très honnête avec toi, je suis pas forcément un grand fan d'imprimer des photos en fait. C'est vrai que, j'imprime des photos de temps en temps, mais c'est pas forcément un usage que j'ai en tête en priorité quand je fais des photos. Maintenant, c'est vrai que pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins connectés, genre les grands-parents par exemple. Ça peut toujours faire un joli cadeau, mais ce que tu soulignes là, c'est encore une fois comme d'habitude le caractère super ergonomique et super bien pensé de la plateforme quoi. C'est quelque chose qui a été développé avec Google Photos en tête et donc l'intégration entre Google Photos et ces Photobooks, elle est, c'est même pas que c'est une intégration, c'est qu'en gros Photobook fait partie de Google Photos et donc avec leur champ de recherche un peu magique dans lequel on tape tout ce qui nous passe par la tête et il va nous trouver les photos correspondantes, c'est vraiment l'idéal pour qu'on pense
tu fais bien d'en parler, le moteur de recherche il est exceptionnel, tu tapes chien, il te sort toutes les photos où il y a des chiens. J'ai tapé le prénom de mon fils et il m'a sorti toutes les photos de mon fils quoi, c'est bizarre, ça m'a même un peu fait peur hein.
Voilà, alors c'est un côté c'est un côté un petit peu flippant, mais c'est vrai que c'est un peu la force de Google. On nous a parlé beaucoup de machine learning, on nous parle de plus en plus d'intelligence artificielle, mais une des premières applications grand public, on va dire, une des premières applications les plus saisissantes grand public de l'intelligence artificielle ou du machine learning, c'est vraiment la capacité à découvrir ce qu'il y a dans, ils appellent ça photo captioning. Là-bas, c'était le contraire en fait. C'était on te donne une photo et l'algorithme va te dire ce qu'il y a sur la photo. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans quand ils ont commencé à faire leur première démonstration et ça a vraiment scotché tout le monde parce que c'était un truc. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, les experts te disaient il nous faudra encore une vingtaine d'années avant d'arriver à un résultat valable et en fait, il s'avère qu'on y est déjà. Mais là, du coup, c'est pour Google Photos, ça marche un petit peu dans l'autre sens. On tape ce qu'on a envie de trouver dans le champ de recherche et il va nous ressortir toutes les photos qui correspondent à ce qu'on a tapé dans la recherche. Donc c'est clair que bon courage. Tu parlais de la concurrence. Alors je suis pas forcément très très au courant des prix, mais si en plus les prix sont les prix sont plus importants que les prix pratiqués par Google, bon courage pour continuer à avoir.
Mais c'est bien parce que c'est vraiment un marché où ça reste relativement cher parce que c'était des marchés bien à part et ils se gavaient un peu les imprimeurs sur ça. Et c'est bien que la concurrence arrive. Ça va être sympa en tout cas. Ça va être sympa. Si on continue un petit peu sur les Chromebooks, alors on va pas continuer un petit peu parce qu'on va parler que de ça tout du long quasiment. Google a annoncé une semaine la compatibilité de Google Play Store sur de nouveaux Chromebooks. Ils ont donc mis à jour leur projet Chromium, enfin sur la page Chromium Project, leur tableau avec les Chromebooks, les produits qui passaient compatibles. Et c'est plutôt intéressant puisque cette fois 16 Chromebooks sont complètement compatibles. Alors soit sur le canal stable, soit sur le canal bêta. Par contre, il y en a de plus en plus. Alors typiquement, Lenovo a vu quelques-uns de ses produits être compatibles sur le bêta channel. HP en a vu aussi sur le bêta channel arriver. Certains sont passés sur le canal stable. Peut-être le tien, le Google Pixel, est passé sur le canal stable. C'est celui de 2015. C'est peut-être pas le tien, ton ancien. Désolé,
ouais, c'est pas bien.
Dell aussi a vu passer en bêta certains de leurs produits, CTL aussi, je vais pas tous vous les citer, il y a beaucoup beaucoup de produits, donc 16 supplémentaires qui accèdent au Google Play Store, donc ça va ravir beaucoup de monde, et c'est des produits qui sont quand même beaucoup vendus, quand je regarde Acer et Asus, c'est des produits comme le R11, le Spin 11, bon c'est un nouveau produit, le Chromebook 11, le N7, qui est quand même pas mal, le 15, alors, c'est des produits qui sont assez vendus sur le marché, qu'on trouve en tout cas en France, donc du coup ça va ravir beaucoup de monde. Donc toi, forcément, avec ton Samsung Chromebook Plus, tu nous parleras de l'autre après, t'étais compatible déjà un jeu, je crois. Ouais,
c'est clair que c'est pas forcément un truc, le tableau, c'est marrant que tu le partages parce que ça fait un moment que j'avais pas regardé en fait. c'est un truc que tu scrutes assez régulièrement quand tu sais que t'as une machine qui va à un moment donné devenir compatible, et puis bon, dès que t'obtiens une machine compatible, finalement tu t'en fiches parce que maintenant ton Chromebook supporte les applications, donc t'as plus trop à te soucier de savoir qu'est-ce qui est compatible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Juste un commentaire quand même, c'est vrai qu'ils avaient annoncé en début d'année, donc il y a maintenant 6 mois en fait, l'arrivée de Chrome OS sur de Android sur Chrome OS. Et pour regarder encore une fois la liste, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de machines qui sont signalées comme en cours en fait. Et c'est vrai que ça avance, mais ça avance quand même doucement en fait. Je pensais qu'après 6 mois, on aurait plus de machines compatibles.
Alors il y a pas mal de bruits de couloir, des commentaires un peu à droite à gauche, certains qui essayent de trouver des justifications à ça. A priori, ça devrait accélérer très prochainement sur. Donc ceux qui sont planifiés vont pas tarder à fin de l'été. A priori, donc déjà le Google Play Store devrait sortir de la version bêta à partir de fin de l'été, début septembre a priori, d'après ce que j'ai compris, ce qui voudrait dire que tous ceux qui sont planifiés seraient compatibles, enfin auraient en canal stable ou bêta en tout cas, auraient le Google Play Store. Après, est-ce que c'est vrai, c'est juste des bruits, des commentaires faits de comme ça parce qu'on a entendu quelque chose à droite à gauche, mais en tout cas si le Google Play Store sort du canal de bêta en fait, il devra arriver sur tout cela, donc ça va être intéressant de voir en début septembre pour la rentrée scolaire si les Chromebooks accèdent au Graal du store d'Android. Mais ça va venir. Donc je suis confiant. En tout cas, la liste s'allonge de jour en jour et la compatibilité de jour en jour. Et on voit, Google avait annoncé que les produits qui sortiraient en 2017 seraient tous compatibles. Et en l'occurrence, ils apparaissent à chaque fois dans la liste. Donc, ils n'ont pas menti et c'est un bon présage pour la suite.
Donc ça veut dire que juste pour bien comprendre, ça veut dire que tous les produits qui sont listés comme en cours ou planned, c'est des produits qui sont sortis en 2016.
Ah non, pas tous, non. Ah oui, en 2016, oui, il y en a qui sont sortis en 2016, mais même plus tard, hein, tu vois, t'as le Pixel 2015, t'as des produits qui sont sortis c'est ceux qui sont fabriqués en 2017, les nouveaux produits, en fait, qui n'existaient pas l'année dernière, sont annoncés comme étant compatibles. Alors, pas immédiatement, mais tu le vois par exemple avec le Samsung Chromebook Plus et Pro, eux sont déjà compatibles sur le canal, je crois que c'est sur le canal stable directement.
Non, stable, ouais.
Ouais, directement
dis,
stable.
J'ai pas encore utilisé le, je suis toujours sur le canal stable.
Donc c'est plutôt bon. On voit que sur des gros constructeurs comme Samsung, donc Acer et Asus vont forcément suivre, hein, parce qu'ils peuvent pas, enfin ils sont quand même plus vendus que Samsung, mais on voit qu'ils arrivent, ils débarquent sur le marché avec le Google Play Store intégré, donc ça c'est plutôt sympa.
D'accord.
Et intéressant.
D'accord.
Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa pour l'avenir. Et d'ailleurs, en parlant d'avenir, il y en a un qui se méfie de Chrome OS, hein, ou de Chromebook, je crois. C'est nos amis de Microsoft, et ça c'est toi qui vas nous en parler un petit peu, parce qu'ils commencent à flipper, en tout cas à essayer de nous expliquer que Windows c'est mieux que Chrome OS.
Quelle magnifique transition, ouais, en effet, ouais. En parlant d'avenir, il y en a qui ont commencé à peut-être avoir du souci à se faire. Donc c'est vrai qu'on en parle quand même souvent finalement de Microsoft dans ce podcast qui est a priori dédié au Chromebook. Il s'avère que aujourd'hui, donc c'est ce que Google a annoncé au cours de Google I/O, 58% du marché de l'éducation aujourd'hui est couvert par Chromebook. Donc aux États-Unis, j'ai oublié de préciser, aux États-Unis. Ouais, donc en gros, Google domine à la majorité des parts de marché dans le secteur de l'éducation aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est vrai que ça nous paraît être un peu incroyable, parce qu'on n'a pas forcément une très très bonne visibilité sur ce qui se passe dans les écoles, en particulier dans les écoles aux États-Unis quand on est en France ou en Europe. Mais c'est clair que là on est clairement dans une situation où Microsoft a du souci à se faire. Il y a aucun doute là-dessus. Et l'éducation a priori c'est pas forcément très très bien engagé pour eux. Et donc là il va pas falloir qu'ils se battent pour garder leur avance, mais il faut carrément qu'ils se battent pour reprendre l'avance. Mais ils ont fait paraître une vidéo il y a quelques semaines qui s'intéressait cette fois-ci au secteur du pro en fait et de l'entreprise. Et en présentant tous les avantages de Microsoft 10 Pro qui vient d'être annoncé, et à quel point Microsoft 10 Pro était meilleur que ce qui pouvait exister chez Chrome OS. Et donc c'est vrai qu'on en a un petit peu discuté tous les deux. Donc tu t'as vu la vidéo toi aussi. Donc c'est une vidéo promo de Microsoft. On n'est pas l'un comme l'autre. On n'a pas été convaincus par les arguments qu'ils nous ont avancés. Ils nous parlent de Microsoft Edge, qui est le remplaçant de Internet Explorer, qui est censé être entre guillemets plus avancé et plus stable et plus robuste que Chrome OS. Bon, peut-être que sur certains critères ça peut se vérifier, mais bon, c'est quand même pas forcément la première chose qui vient en tête quand on pense à Microsoft Edge, même si a priori il est beaucoup mieux que l'ancêtre Internet Explorer. On est quand même pas, enfin on peut pas dire qu'il soit 10 fois mieux que Chrome OS. Il nous parle de Cortana,
bon, il est
aussi,
surtout 10 fois moins utile. Il est surtout 10 fois moins utilisé que Chrome tout court. Enfin, moi, tous les possesseurs de Windows 10 ou n'importe quoi, ils utilisent. Enfin, à chaque fois que je vois un ordinateur avec Windows dessus, je vois un petit logo Chrome qui se balade sur leur écran quand même. Donc,
s'il
était
pas,
si bien Edge, je crois que je connais personne qui utilisait Edge. Il y a encore des gens qui me parlent d'Internet Explorer dans mon entourage. du E bleu en croyant que c'est Internet Explorer. Je leur dis non, ça a changé, ça s'appelle Edge maintenant. Ah ouais, ok, d'accord. Et c'est bien. J'en sais rien, personne l'utilise. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est sûr. C'est comme tout, quand un produit n'est pas utilisé, les hackers ils s'en fichent en fait. Ils préfèrent toucher un grand public que toucher 4 personnes. C'est ce que certains processeurs de Mac OS à l'époque disait, ah ouais, mais Mac, il n'y a pas besoin d'antivirus, c'est hyper sûr. Ouais, en fait, c'est surtout anecdotique. À une période, les hackers préféraient attaquer Windows parce que il y avait 1 million de personnes qui utilisaient ça. Donc forcément, c'était moins sûr Windows parce que il y avait plus de hackers dessus. Maintenant, Mac est un peu moins sûr qu'avant, même si c'est toujours sympa. Il a été piraté comme pas mal d'autres. Linux, pareil, tout le monde s'en fichait, mais il y a quand même quelques trucs. Et puis Chrome OS, pareil. Le jour où Chrome OS sera en grosse quantité, peut-être qu'on aura des hackers, peut-être. Mais aujourd'hui, Edge, sincèrement, excusez-moi, mais je vais même pas finir ma phrase. Tiens, ça m'énerve.
Mais donc ouais, donc c'est vrai que ouais, entre Edge, Cortana et alors après il nous avance aussi la capacité d'opérer les machines à distance et de les provisionner à distance et de les infogérer en fait. On sait très bien, pour les gens qui écoutent un petit peu le podcast régulièrement, on sait que Chrome OS a une des forces de Chrome OS, justement, c'est la capacité de provisionner des machines. Et en l'occurrence, on a juste à créer des comptes, un compte avec un compte Gmail, et puis voilà, ça y est, on a accès à tout. C'est assez simple à administrer pour un administrateur. Donc c'est vrai que tous ces points-là, finalement, enfin, ce qu'on se disait un petit peu avant en préparant l'émission, c'est que on sent que le marketing est prêt, on sent que le marketing est d'attaque et que clairement la cible a été identifiée. Maintenant, pour ce qui est des points, techniques du produit et justement des avancées techniques, à mon avis, il y a quand même encore un petit peu de boulot et je suis pas sûr que Windows soit parfaitement équipé pour reprendre le leadership qu'ils sont en train de perdre face à Chromebook. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais ils ont clairement identifié la menace. Maintenant, ils ont peut-être pas complètement les outils pour lutter contre Chrome OS.
Et peut-être que cette vidéo, c'est pas une vidéo de ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ce qu'ils aimeraient avoir plus tard. Tu vois, c'est peut-être une vidéo futuriste. C'est peut-être ça, ouais. En fait. Ils tendent à aller vers ça. Et ils se disent, on va dire aux gens qu'on l'a, puisque de toute façon, on y travaille. Je sais pas. Ouais. Parce que franchement, ouais, leurs arguments étaient préparé, un petit peu, pas de mauvaise foi, mais pas, alors on va dire ouais t'es pro Chromebook tout ça, non j'adorerais que Microsoft,
ce qui est vrai,
mais j'adorerais que Microsoft ok d'accord, je me tais, je m'en vais, j'adorerais que Microsoft revienne sur les devants du marché, pas parce que je vais reprendre un Microsoft ou un Windows ou quoi que ce soit, mais pour encore faire bouger plus le marché et donner peut-être encore plus envie à Google d'écraser le marché en avançant encore plus vite, parce qu'ils ont les capacités d'avancer à une vitesse. Mais alors pour ceux qui sont comme moi sur le canal dev de Chrome OS, vous le voyez, moi en ce moment tous les jours quasiment j'ai des mises à jour qui sont intéressantes. Je viens d'obtenir le picture in picture, je viens d'obtenir le nouveau, on va en parler après, mais je viens d'obtenir plein de fonctions petites, ouais c'est super cool, mais ça marche pas encore, mais c'est super cool mais c'est des choses qui arrivent petit à petit sur Chrome OS, mais quand je dis petit à petit c'est de 24 heures en 24 heures les mises à jour. Moi j'attends pas 5 ans pour avoir une mise à jour de fonctionnalité. Alors certes il manquait tellement de fonctionnalités à Chrome OS que quand elles arrivent, ça arrive vite, mais elles rattrapent le retard. Mais cela dit, sur Windows, le Picture in Picture, si ça doit exister, je pense. Je vais être mauvaise foi si ça doit exister. Mais voilà, donc si Microsoft arrive avec des produits à concurrencer Google, ça va être génial. Google va pas se laisser marcher dessus. Ils ont, comme tu l'as dit, 60% presque, 60% du marché américain, des scolaires américains.
Pour l'éducation.
Pour l'éducation. Ils vont pas perdre ce marché-là. Ils vont se défoncer à fond et sincèrement, Donc comme je le dis
à chaque fois, on parle des gamins entre guillemets, donc des enfants qui vont à l'école, qui découvrent l'informatique ou se familiarisent avec l'informatique sur un Chromebook. Faut se dire que dans 4-5 ans, ces gens-là, ils vont aller à l'université. Enfin, ces gamins seront plus des gamins, ils vont aller à l'université. Ce sera, si on leur propose un Chromebook pour 30% ou 40% du prix d'une machine Windows et peut-être 10 ou 20% du prix d'une machine Mac, c'est clair que c'est probablement des gens qui vont se mettre à utiliser des Chromebooks. Donc, je pense que là, Google est un peu en train de se bâtir
un
avenir, voilà c'est ça, en prenant une part de marché aussi importante dans l'éducation.
Ouais, et puis comme tu dis, après ils vont sortir des études, ils vont être pros, et puis certains vont être gestionnaires de flotte, et quand ils vont devoir choisir, ils prendront des Chromebooks parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent, et forcément c'est ce qui s'est passé avec Microsoft, Microsoft est présent sur tous les marchés aujourd'hui parce que ils étaient les premiers finalement, donc il a fallu un challenger, et c'est Chrome OS qui est devenu le challenger. On attendait Mac qui a quand même une belle percée, il y a rien à dire dessus, le prix rebute beaucoup, et Chrome OS a tout pour plaire finalement, un OS simple, des prix hyper intéressants, des mises à jour régulières, beaucoup de fonctionnalités qui protègent l'utilisateur et ses données. Donc d'ici quelques années, si Microsoft fait rien, on n'en entendra plus parler.
Exactement, j'allais dire exactement. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps que ça.
Quelques années, mais, j'ai pas précisé.
Mais c'est clair que... ouais. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, ça va être intéressant de suivre et je suis sûr qu'on continuera à vous en parler dans ce podcast.
D'ailleurs, en parlant de mise à jour. Ah, vas-y, excuse-moi.
Non, je t'en prie, c'est toi le roi des transitions. Je te laisse.
Alors, donc juste en parlant des mises à jour, je vous disais tout à l'heure, j'ai eu le pitcher qui arrive, alors via un flag expérimental. Donc, on faut l'activer le flag et puis pof, on a son petit truc, sa petite fonctionnalité du matin. Moi, j'adore ça au petit déjeuner, avoir ma nouvelle fonctionnalité. C'est comme ça que je fais des articles, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui me disent, mais comment tu trouves tout ça? Eh ben, je cherche, en fait. j'ouvre tous les matins le chrome.//flag. Et je regarde tout ce qui s'est passé dedans et tout. Alors il y a des tonnes et des tonnes de drapeaux, alors des flags qui sont là. Et puis ben je les active et puis j'essaye de voir si la fonctionnalité marche. Donc là je suis tombé il y a 3 jours un truc comme ça sur le flag picture in picture. Alors picture in picture, j'adore ça. C'est pour regarder une vidéo en premier plan et pouvoir faire autre chose en second plan. Ça vient de la télévision à la base, hein, ça. Et c'est génial parce que moi je regarde beaucoup de séries. Enfin je regarde. Je suis beaucoup de séries, par contre je les regarde pas toujours, elles sont plus en bas de mon écran, donc le picture in picture c'est ça qui est génial, elles sont en bas de mon écran, ça me permet de garder un œil dessus, j'écoute ce qui se passe, ça me permet de travailler en même temps et de taper mon texte, et quand il y a un truc qui bouge, paf, mes yeux ils tapent sur le petit écran en bas à droite, enfin moi je le mets à droite, et je peux continuer à suivre ma vidéo, c'est génial, j'adore ça. Bon, picture in picture vient d'arriver. Bon, elle est encore pas fonctionnelle, je sais pas ce qui manque, ça devrait plus tarder, mais on voulait vous parler un petit peu du lock screen et du logging screen de Chrome OS qui a été refondu, remanié, comment on peut dire ça, relooké. Ouais, relooké, c'est bien ça. Relooké au format Material Design. Enfin une unification de l'OS de bout en bout quasiment. Donc le Material Design c'est le truc un peu flat, un peu plat, un peu sans relief. Dit comme ça fait pourri, non? Ça fait pas un peu mais c'est quelque chose d'assez dans l'air du temps et Google avait pas encore fait la mise à jour sur le lock screen, logging screen et c'est assez moche et là ils ont fait cette mise à jour là et c'est plutôt sympa et là c'est plutôt joli. Enfin, il faut être pour l'instant soit sur Canary, sur le canal Canary, soit sur le canal Dev. Ça veut dire que sur le canal bêta, ça va arriver d'ici, 3 à 6 semaines maximum. Et voilà, bon, petite mise à jour qui n'a l'air de rien, mais qui donne quelque chose de sympathique. Bon, toi, tu l'as pas vu, hein, tu m'as dit, hein, Thomas.
J'ai pas encore testé. Non, j'ai pas encore testé, mais je vais regarder ça ce week-end.
Ouais, c'est joli, c'est sympa. Bon, ça apporte rien, hein, c'est juste du look, mais c'est sympa. Ouais. D'autres évolutions, je crois que ça a été annoncé au Google I.O., ce que tu vas nous dire là, non? C'était pas annoncé?
Je crois mal. Bien essayé, mais en fait, non. Donc je vais vous parler un petit peu. Ah, écoute, tu peux pas, t'en as eu 5 de bonnes là, celle-ci, ouais, c'était pas tout à fait ça. Donc ouais, je vais vous parler d'un truc qui n'a pas été annoncé à Google I.O. Je vais vous parler de Visual Studio Code. Donc Visual Studio, pour les développeurs qui nous écoutent, ça va bien vous parler, c'est ce qu'on appelle l'IDE. Donc IDE en anglais, ça veut dire Integrated Development Environment. Et donc c'est le logiciel qui permet de créer des logiciels en gros. Et donc Visual Studio, c'est l'IDE historique de Microsoft. Et il y a quelques années, ils ont sorti une version un petit peu plus légère de Visual Studio qui permet de faire du développement web en particulier. Et puis on peut aussi l'utiliser pour développer dans des langages qui sont compilés par la suite. Mais on va dire que c'est une version un petit peu plus légère de la suite de développement Microsoft qui s'appelle Visual Studio Code. Et c'est un IDE qui a eu beaucoup de succès en fait. Il y a beaucoup de développeurs web qui se mettent à l'utiliser parce qu'il est assez joli, il est assez léger, il est assez customisable et du coup il a une certaine base d'utilisateurs qui sont assez fans. Et donc il est disponible sur Mac OS aussi, ce qui est assez notable parce que en général Microsoft a pas fait grand chose de disponible sur Mac, sous Mac OS. Mais là on parle pas de Mac OS, on parle de Chrome OS. Et en fait j'ai découvert qu'il y a un développeur qui s'est amusé à porter Visual Studio Code pour le faire tourner sous Chrome OS. Donc c'est pas encore complètement support officiel de Microsoft, il y a des petites bidouilles à faire, donc les gens qui nous écoutent depuis un petit moment savent que il y a moyen d'activer le Linux en fait qui tourne derrière Chrome OS, donc faut basculer son Chrome OS, enfin son Chromebook en mode développeur. Après, une fois qu'on l'a mis en mode développeur, il y a une extension qui s'appelle Crouton qui permet d'activer Linux. Donc après, faut aller faire Ctrl Alt T pour accéder au terminal. Après, faut taper shell. Enfin bref, il y a toute une suite de commandes. Les gens qui ont l'habitude de bidouiller sur Chrome OS savent très bien de quoi je veux parler. Mais donc tout ça pour dire que on commence à avoir des outils de développement assez avancés qui arrivent sur Chrome OS. Donc là, c'est pas encore un support officiel, mais les développeurs, c'est pas très très compliqué de faire les manipulations pour y accéder. Et je trouve ça assez réjouissant. Je pense qu'on est à peut-être un an et demi d'avoir une vraie suite logicielle vraiment solide, développée et accessible sur Chrome OS pour développer des applications web, mais peut-être même un jour des applications lourdes, comme on dit, que ce soit des applications sur desktop ou même sur Android, ou voire même un jour sur iOS, qui sait. Ouais. Donc voilà, donc je voulais vous parler de Visual Studio Code qui arrive sur Chrome OS. On mettra les liens pour les gens qui ont envie dans les notes de l'émission, pour les gens qui ont envie de l'activer. Mais voilà, c'est assez réjouissant tout ça pour tous les développeurs qui nous écoutent, qui sont aussi fans de Chromebook.
Ouais, il y en a de plus en plus qui me posent la question de est-ce qu'on peut coder, est-ce qu'on peut développer sur Chrome OS. Je réponds facilement en disant oui. Voilà, je leur dis, il suffit d'un traitement de texte et tu vas faire du HTML. ils me répondent, t'es gentil, mais ça on le savait. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que comme tu le dis, ça pourra être du langage compilé aussi. Donc les C++, ils vont pouvoir développer grâce à ça ou pas. Enfin,
c'est... ouais. Alors après, je suis pas complètement sûr qu'on puisse. Tu pourras écrire du code. A priori, tu auras tous les outils du développement, donc ce qu'on appelle la coloration syntaxique, l'autocomplétion, etc., etc. Après, je sais pas si tu peux compiler, en local.
Ça peut être comme ça ressemble à un Notepad++. Je sais pas si tu utilises ça, mais certains développeurs l'utilisent. Ouais. Mais moi, je trouve ça génial. Notepad++ qui justement colorie les syntaxes en fonction du langage qui reconnaît ou que t'as choisi. Je me souviens plus. Donc c'est un peu la même chose en fait, mais il compile pas derrière. Ok, moi c'est déjà une bonne.
Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a des trucs en plus, genre par exemple le support de Git, le support des ce qu'on appelle les, j'ai pas réussi à traduire en français, mais les VCS, les Version Control System. Donc Git, Subversion, pareil, les développeurs qui nous écoutent voient très bien de quoi je veux parler. Donc il y a quand même tout un tas d'outils qui sont là pour te permettre de développer des applications. Après, il manque quand même un petit peu, il manque certains éléments de la chaîne, encore une fois, c'est clairement un pas dans la bonne direction.
Cool. C'est bien ça. Et du coup, tu vas faire ça, tu m'as dit que t'allais le tester ce week-end, c'est ça?
Ouais, je vais tester ça ce week-end.
Et tu vas le tester sur quoi?
Alors, sur quoi est-ce que je vais le tester? Donc, comme tu l'as dit, j'étais à Google I.O. il y a quelques semaines maintenant. Et je suis allé à cette session qui s'appelle « Développer des applications Android pour Chromebook », qui était assez intéressante. On sent que Google mise énormément sur le support des développeurs pour développer des applications sur Chromebook. On en a déjà parlé, mais là, ils ont fait quelques annonces. Par exemple, il va y avoir un émulateur de Chromebook qui va arriver. Donc, les gens vont pouvoir faire tourner un émulateur Chromebook sur Mac et Windows et Linux pour pouvoir tester leurs applications Android dans la configuration comparable à celle d'un Chromebook. Et à la fin de la session, ils nous ont aussi annoncé... comme on a vraiment envie que vous fassiez un effort pour supporter les applications Chromebook, eh ben on vous donne un bon de réduction pour acheter le nouveau Chromebook Pro qui n'est pas encore sorti et qui va bientôt arriver. Et donc ça, c'était il y a environ 3 semaines, un mois. Et depuis, donc le Chromebook Pro est enfin là. Donc on en avait parlé un petit peu au dernier épisode. En fait, on avait dit que le Chromebook Plus avait été annoncé, avait été lancé dans les temps, et puis ils avaient dit vous inquiétez pas, le Chromebook Pro va arriver dans les mois qui viennent. Enfin, ça devait être, je sais plus, au printemps ou un truc comme ça. Et puis ça avait été silence radio pendant des semaines et des semaines, et ni Google ni Samsung n'avaient l'air de communiquer sur la question. Donc on se demandait un petit peu ce qu'il est arrivé au Chromebook Pro. Et ben le Chromebook Pro est enfin là, il est enfin arrivé, et je l'ai sous les yeux, et c'est ce que j'utilise en ce moment pour enregistrer le podcast.
Ah là, c'est un truc de dingue, t'as le Chromebook Plus, t'as le Chromebook Pro, enfin ça m'énerve. Nous on a même pas l'espoir de pouvoir le commander, ni l'un ni l'autre. Enfin c'est juste énorme quoi, c'est bon, bah ouais. C'est cool. Et alors tes impressions?
Alors écoute, pour le faire rapidement, donc je l'ai eu il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, donc j'ai pas encore eu le temps de beaucoup jouer avec, mais c'est quand même une machine qui est très très comparable au Plus. La différence qui saute aux yeux, c'est la couleur. Le Chromebook Plus est gris et le Chromebook Pro est noir. Après, il y en a un qui est aussi un petit peu plus lourd. Enfin, le Chromebook Pro est un petit peu plus lourd que le Chromebook Plus. Ce qui est assez intéressant, parce qu'en fait, a priori, la seule différence, c'est le processeur. Le Chromebook Pro a un processeur Intel, alors que le Chromebook Plus a un processeur ARM qui est un petit peu plus léger. Mais c'est vrai que c'est vraiment la seule différence. C'est léger, ouais, en termes de performance. Après, en poids, je sais pas exactement. J'imagine qu'il doit y avoir un système pour le refroidir, parce qu'a priori, le processeur Intel va probablement chauffer un petit peu plus que le processeur ARM.
Ouais, ils ont pas rajouté de ventilateur dedans?
A priori, non.
Il est toujours fanless?
Il est toujours fanless, ouais. Ouais, ouais.
Alors que sur le ARM, bon, t'as pas besoin, il chauffe pas le truc.
Ouais, c'est ça. Ouais, le ARM, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop de quoi on parle, en fait, ce qu'on appelle les processeurs ARM. ARM, c'est l'architecture, et en fait, c'est des processeurs qui sont utilisés dans les téléphones, en fait. Ouais. Donc c'est censé être plus léger, plus léger en termes de performance, plus léger, donc moins puissant qu'un processeur utilisé dans un ordinateur. Dans les grandes lignes, je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent en hardware qui m'écoutent, ils doivent s'arracher les cheveux, mais pour la faire simple, ouais, c'est ça, un ARM, c'est plus léger, moins puissant, mais ça chauffe moins et ça consomme moins. Mais j'ai pas l'impression que la batterie dure moins longtemps, donc du coup, peut-être que c'est ça, en fait, peut-être que la batterie est plus grosse et que l'autonomie est comparable. J'aurais dû faire un petit peu plus de recherches avant de commencer à vous parler de tout ça, mais
c'est tes premières impressions, puis, c'est bien déjà. Enfin, t'es le seul dans mon entourage à avoir le Chromebook Pro, et c'est cool d'avoir déjà tes premiers retours. Donc, mais sinon, c'est sensiblement le même, même écran, le même affichage. C'est toujours du Full HD. Non, c'est quoi, du Full HD? Ouais, c'est toujours du Full HD. Il est défini en quoi? En 2400 par 1600. C'est un écran LED toujours. Enfin, c'est le même produit. La seule différence.
Même.
Et ils ont changé les couleurs pour pas qu'on confonde, peut-être, enfin que ça soit facilement reconnaissable en regardant les riches et les pauvres. Les pauvres, ils ont le plus, et les riches, ils ont le noir. c'est ça.
Ouais, il doit y avoir de ça.
Voilà, bon, c'est
mais,
cool.
Mais donc ouais, donc très très bonne machine, et puis bon, il y a des, alors attends, j'ai quand même pointé les trucs, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais les trucs qui font que c'est pas complètement la machine parfaite, c'est le clavier, qui est quand même un petit peu qui est pas mal, mais qui est pas rétro éclairé, et puis en termes de comment est-ce qu'on appelle ça, le déplacement de touches, qui est pas forcément ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et puis aussi un truc que j'ai pas précisé, c'est les haut-parleurs. C'est vrai que à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que les haut-parleurs étaient pas forcément très très puissants et pas forcément très
ils sont positionnés où d'ailleurs,
pas forcément au niveau. C'est une très très bonne question. Je crois qu'ils sont sous la machine, en fait.
C'est pour ça,
ouais,
aussi.
C'est ça. Sous la machine, et c'est vraiment des tout petits. Enfin, les speakers, les grilles sont toutes petites. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, on sent qu'il y a aussi. Ça doit être, à mon avis, ça devait être une des choses à sacrifier pour avoir une finesse aussi importante, parce que c'est vrai qu'il est quand même très très fin. Ouais. Faut s'imaginer, il est. Tu vois, j'ai mon Pixel, enfin le téléphone Pixel à côté, le clavier, enfin l'épaisseur du clavier est à peine plus épaisse que mon téléphone Pixel, et l'écran est un petit peu plus fin que le Pixel, tu vois, donc c'est quand même très 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 fin, quoi.
Ouais, donc en poche, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a certains constructeurs qui ont mis les enceintes sous le sous les touches du clavier. Je sais pas si t'avais vu, c'est sympa, je trouve ça. Et du coup, t'as un son qui te vient en face, ils auraient peut-être pu faire ça. Donc, moi, j'avais trouvé ça intéressant. Enfin, bref, donc, t'es quand même content de ton produit, surtout que tu l'as eu à un prix,
c'est quoi,
75% du prix, je crois?
Ouais, c'est ça, on avait une réduction de 75%, donc ça nous fait,
ils te le font prix coûtant pour te dire qu'ils font un peu d'argent dessus, quoi.
En gros, c'est ça, ouais. D'ailleurs, à une époque, je me demandais si tous les Chromebook Pro allaient partir à des gens qui avaient participé à Google I/O. Ouais. Donc, je sais pas combien de personnes ont vraiment payé le prix fort, mais en tout cas, c'est clair que je l'ai eu à un prix un petit peu réduit, quoi.
Tiens, en parlant de ça, pour les personnes qui peuvent acheter, le Chromebook Plus est disponible aux États-Unis sur Amazon maintenant. Enfin, je sais pas s'il y était avant. Et je regardais justement pour l'acheter hier. Pour le faire importer, pour voir si je pouvais me trouver une solution. Ils peuvent sur Amazon.com, ils peuvent te le livrer en France pour $103 en plus.
D'accord.
Donc ça commence à faire cher, hein, le Chromebook, juste pour les $103 de frais qu'ils ont balancé. Mais comme quoi, ils se ferment pas à la France. Bon, après, t'as un clavier QWERTY, machin, tout ça, mais c'est pas très grave. Et donc ils commencent à vendre, plutôt que de le mettre sur Amazon.fr, ils le laissent sur .com avec possibilité de le recevoir en France. Bon, c'est étonnant, mais donc peut-être que il était pas mal en précommande sur Amazon.com. Donc à mon avis, il doit être ouvert. J'ai pas regardé ça dernièrement, mais il doit être ouvert maintenant.
Exactement.
Enfin voilà. Donc encore un beau produit à tester et tu nous feras le retour au prochain podcast, j'imagine. Donc après toutes ces news qui étaient nombreuses, on va parler du dossier. Alors le dossier, accrochez-vous, il est un petit peu violent, il peut faire peur, mais il est là pour vous rassurer sur l'utilisation d'un Chromebook. On va parler de la sécurité sur nos ordinateurs Chrome OS et Chromebook. Et la sécurité, c'est très très important. On en a entendu parler il y a un petit mois avec un ransomware qui était WannaCry, qui a attaqué les ordinateurs sur Windows. Et on a pu en sortir quelques conclusions, des conclusions toutes bêtes qui auraient pu, si elles avaient été analysées auparavant, elles l'ont été, mais si les préconisations avaient été suivies, éviter pas mal de drames pour des entreprises comme Renault en France et compagnie. Je crois qu'on en avait parlé au dernier podcast d'ailleurs. C'est ça qui m'a donné l'idée du dossier de ce mois-ci. Donc la sécurité sur Chromebook, c'est souvent un problème qui n'est pas lié à l'appareil en lui-même. Alors, je vais sortir un vieux dicton qui date de Mathusalem. En fait, en informatique, le plus gros problème, il se situe entre la chaise et le clavier. Et je pense encore aujourd'hui que c'est vrai. Donc du coup, il faut bien penser que finalement les défauts qu'on peut rencontrer sur un ordinateur viennent souvent de nous. C'est nous qui générons des problématiques et on va parler d'un truc qui est assez intéressant. C'est l'hygiène numérique. Et d'ailleurs, en parlant d'hygiène numérique, comment va la tienne, Thomas ?
Écoute, je pense que ça va a priori, hein.
Est-ce que tu sais de quoi je veux parler en parlant d'hygiène numérique ?
Ouais, je sais de quoi tu veux parler.
Ouais, mais t'as triché, toi.
On t'avait préparé la blague avant.
Ouais, alors l'hygiène numérique, c'est je ne parle pas d'éponge, de savon et compagnie, hein, rassurez-vous, vous faites bien ce que voulez votre corps. Par contre, l'hygiène numérique, c'est un certain nombre de mesures qui peuvent être appliquées, utilisées sur nos ordinateurs, tablettes, smartphones, qui sont destinées à prévenir les infections et les attaques. Alors c'est pas un vaccin, c'est pas une protection physique, mais c'est vraiment une utilisation quotidienne de nos appareils. Alors ce que je vais vous dire là, enfin ce qu'on va aborder avec Thomas là, ça pourrait très bien fonctionner sur Microsoft. Donc si vous n'avez pas de Chromebook, rassurez-vous, restez là, ça va vous être utile aussi au quotidien. Dans votre utilisation classique de votre Windows, de votre Mac, de votre Linux et compagnie. Alors le premier truc que je voulais aborder, c'était le phishing, appelé en français le hameçonnage, je crois. Tu sais de quoi, enfin tu connais ce système-là, j'imagine, Thomas. Enfin, je te pose la question, j'ai pas de doute que tu saches ce que c'est.
Encore une fois, j'ai les notes de l'émission en plus sous les yeux, donc.
Ouais, mais même avant les notes, tu savais.
Mais même avant les notes, je savais ce que c'était.
Ouais. Alors, pour faire simple, c'est tout bête. Hein. C'est vraiment tellement bête que je comprends pas qu'on arrive à se faire avoir. Le phishing, c'est en fait, on reçoit un email qui vous dit que vous avez gagné un voyage aux Canaries, aux Baléares, ou que on vous a trop perçu, on a eu un trop perçu sur votre dernière facture EDF, ou que si vous cliquez ici, vous repartirez avec votre iPhone 7 Plus gratuitement. Bref, c'est un mail complètement frauduleux. Il faut, je vais reprendre un autre dicton. Alors c'est pas un dicton, c'est un truc commercial de nos amis du loto. Pour ceux qui jouent au loto, vous le connaissez, mais qui est plutôt vrai même dans le phishing. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si vous avez pas joué, vous pouvez pas recevoir un mail qui vous dit que vous avez gagné. Alors arrêtez de cliquer sur le lien pour accéder à cette fameuse à ce fameux cadeau ou à ce fameux trop perçu. Si vous êtes pas chez l'opérateur Orange, vous avez pas un trop perçu d'Orange, c'est pas possible. Donc arrêtez de cliquer sur le lien et arrêtez surtout de vous donner vos identifiants, vos mots de passe ou encore pire votre carte bancaire et peut-être même l'accès à votre ordinateur à distance. Le phishing, c'est ça. En fait, c'est des petits malins qui reproduisent des mails d'opérateurs téléphoniques, d'opérateurs électriques, de votre banque, enfin bref, de tout le monde, et qui essayent de récupérer vos données personnelles grâce à ça. Alors, tout le monde en a reçu. Je pense, Thomas, enfin peut-être que, bon, si vous êtes touché aux États-Unis aussi, je pense que t'as déjà vu des mails qui te semblaient tellement vrais que t'avais envie de suivre le lien.
Ah ouais, et puis tu parlais de WannaCry, WannaCry, c'est même venu au bureau, tu vois, il y a même des collègues qui, enfin, ou en tout cas des emails qui en apparence provenaient de collègues qui étaient infestés avec, qui avaient le lien sur lequel il fallait pas cliquer si on voulait pas se faire infester.
Voilà, mais donc c'est tout bête, c'est faire attention à qui envoie le mail déjà. Si c'est un de vos collègues que c'est un peu bizarre, bah passez-leur un coup de fil, allez le voir dans le bureau, envoyez-lui un SMS ou je sais pas quoi. Si ça vous redirige vers un site internet qui est soi-disant l'opérateur téléphonique, regardez l'adresse URL tout simplement. Souvent, bah c'est pas l'adresse du fournisseur, tout simplement. Il y a donc une solution pour vérifier en plus les sites web, s'ils sont vérolés ou pas, si c'est des sites pirates. Donc c'est mon deuxième point, c'est la navigation sécurisée. Faites attention où vous allez, que ça soit sur un Chromebook, que ça soit sur n'importe quel appareil. Internet, c'est très très grand, c'est comme la rue, c'est dangereux. Il y a des endroits où il faut pas aller, il y a des endroits très très sombres, très obscurs, où il y a des gens bizarres avec des mentons très très longs et ils ont des couteaux dedans. Bon bref, j'arrête mes délires, mais c'est très très dangereux d'aller sur certains sites. Et Google le sait. Et Google le sait, et il le sait. Alors du coup, il a créé un truc qui s'appelle Google Transparency, qui est un site officiel de Google qui vous permet très simplement d'aller saisir l'URL du site internet où vous avez un petit doute. Vous dites, ouais, il me paraît sympa, mais est-ce que c'est viable, est-ce que c'est intéressant? Vous tapez son adresse et lui va vous dire, ah ouais, non, c'est bon, tu peux y aller, il n'y a aucun risque, il est vérifié par nos services. Ou alors, non, il a jamais été vérifié, c'est chelou, il paraît bizarre, il y a peut-être des virus, des malwares, des ransomware qui se baladent là-dedans. Donc attention, il n'est pas sécurisé, tes données seront peut-être balancées à droite ou à gauche. En fait, tout le monde l'a déjà vu, enfin je pense que tu as déjà vu des sites internet bien glauques. Enfin, je sais pas ce que, enfin Thomas, tu as déjà vu tout ça, j'imagine, enfin.
Ouais, il y a des sites, clairement des sites dont il faut se méfier, mais après il y a aussi des sites qui ont l'air de sites tout à fait valables et tout à fait valides. Et qui imite le site de PayPal, qui imite le site de votre banque, qui imite le site de votre webmail. Et c'est vrai que faut se méfier, des fois même de sites qui ont l'air tout ce qu'il y a de plus officiel et qui sont en fait juste là pour vous tromper en fait.
C'est ça. Et le conseil qu'on peut donner, c'est finalement vous là, allez sur PayPal, tapez vous-même paypal.com.fr, enfin ce que vous voulez, le pays où vous êtes, faites vous-même la saisie et cliquez pas sur un lien qui vous redirige vers une page. C'est toujours dangereux, sauf si c'est un mail qui vient de moi. Non, parce que je peux être piraté pareil, donc faites attention à ce que je vous envoie aussi, on sait jamais. Mais alors c'est pas moi qui vous l'enverrai, évidemment, je suis pas là pour pour vous pirater votre compte bancaire ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais attention aux liens qu'on vous envoie. Demandez à votre entourage de vous donner le lien, mais enfin pas un lien cliquable qui mette des espaces s'il faut dans les mots, des choses comme ça. Et vous saurez que cette personne-là, enfin si elle est au courant de comment vous travaillez, ok, c'est chiant. Des fois, il y a des liens qui sont à rallonge, mais ça permet de sécuriser un minimum en tapant nous-mêmes l'adresse du site internet. Donc, et Google nous aide avec Google Transparency. Pareil, je vous mettrai le lien. Vous tapez, enfin, vous copiez-collez le lien avant de cliquer dessus. Comme ça, vous saurez s'il est bon ou pas. D'ailleurs, j'avais pas parlé dans les notes de l'émission, mais Google a même lancé sur son navigateur Chrome la possibilité de vérifier si le site est sécurisé ou pas. Typiquement, là tu vois Thomas, enfin tu l'avais déjà vu, mais là on est sur Zencastr pour enregistrer le podcast, et en haut à gauche dans notre navigateur, juste à côté de HTTPS, donc sécurisé a priori, eh ben il y a maintenant Google met un petit cadenas, bon, et en plus note sécurisée, donc Google l'a vérifié, enfin en tout coup Chrome sait que ce site web est sécurisé. Je pense que tu le vois aussi, j'imagine, je suis pas le seul à le voir.
Ouais, je le vois. Alors, sachant qu'après, bon, faut quand même se méfier. Ça vous garantit pas que le petit cadenas sécurisé, c'est la première étape. Ça vous garantit pas non plus complètement d'être sur le site sur lequel vous pensez être. Par contre, ça vous garantit que la communication entre ce site web et votre navigateur est sécurisée.
Ouais, ok.
Et c'est vrai que dans certains cas, là, tu vois, Zencastr. Bon, typiquement, c'est pas forcément le très bon exemple parce que Zencastr, c'est TR à la fin, il n'y a pas de ER.
Ouais.
Mais on est souvent dans des cas où on est renvoyé sur Google avec
3O
ou Google sans E, .com, et on peut très bien se retrouver sur un Google avec 3O.com et avoir la connexion HTTPS qui nous montre le cadenas sécurisé, mais quand même se retrouver avec une connexion sécurisée vers un site pirate en fait.
D'accord. Donc ça permet juste d'être sûr qu'on lui donne les infos. Comme il faut.
Disons que c'est quand même une bonne étape de voir qu'il y a bien un cadenas et qu'il y a bien une liaison sécurisée entre votre navigateur et le site web. Après, il faut quand même s'assurer qu'on est bien sur le bon site web.
Donc la seule solution, c'est de taper soi-même le nom.
Ouais, c'est une bonne façon de faire en effet. Ouais.
Je vais aborder le. Alors je vais sauter le point qu'on voit. Je reviendrai dessus après parce que finalement ça va me faire ma transition. Un autre truc qui est intéressant, c'est les mots de passe. Sécurisez vos mots de passe. Je sais pas toi tes mots de passe. Si t'as une technique pour avoir des mots de passe sécurisés différents en fonction des différents sites que tu suis, des différentes applications que tu utilises. Moi je vois dans mon entourage. Alors je suis dans un univers où je vois beaucoup de faux geeks informatiques. Tu sais, ils ont un iPhone, ils sont geeks, ils savent tout sur tout. Sauf que leur mot de passe c'est le même sur tout. Alors ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est le code le plus courant ou mot de passe ou je sais pas quoi. Le nom du chien sur tout en fait. Tous leurs emails, toutes leurs applications, partout en fait. Donc en gros, tu connais leur mot de passe, t'en connais un, tu connais tout, t'as accès à leur vie entière, leur vie numérique, je dis bien. On a un petit bonhomme qui est connu de tout le monde maintenant, qui s'appelle Edward Snowden, qui avait, il y a quelques temps déjà, ça doit bien faire 1 ou 2 ans, qui avait expliqué que les mots de passe, c'était un peu du n'importe quoi, et que un bon mot de passe devait comporter au minimum 12 caractères. Alors 12 caractères, c'est pas forcément 12 chiffres, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enfin, ça fait plus que 12 caractères, du coup. C'est le minimum, de toute façon, 12 caractères. Mais un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui, déjà, n'est pas le même partout. C'est un mot de passe qui n'est pas un mot, en fait, de passe, et qui peut être une phrase complètement. Alors il l'avait appelé la passe-phrase. Je trouve ça l'idée géniale de la passe-phrase, et on peut inclure dans ce mot de passe. Alors je vais vous donner un truc. Alors je l'utilise pas moi, donc je vais vous le donner, je m'en fiche, mais je trouve ça bien. Pour créer un mot de passe, en fait, typiquement vous avez une adresse Gmail. Ah, soyons fous. Vous allez sur Gmail tous les jours hein, pour regarder vos emails, tant mieux, et vous voulez un mot de passe personnalisé à votre adresse Gmail. Alors, il nous faut 12 caractères minimum, donc gmail.1234 c'est pourri, hein, on va pas mettre ça, Nicolas1234 c'est pourri aussi, donc du coup, moi, je peux vous proposer d'utiliser une phrase, n'importe laquelle, une phrase que vous utilisez au quotidien, une phrase d'un livre que vous adorez, une phrase d'une poésie géniale ou d'une chanson que vous adorez aussi. Alors, moi, je vais vous donner un exemple que j'ai utilisé pour une personne. Cette personne dit tous les jours, Alors c'est une expression un peu débile à la française, mais ça marche bien. Quand il y a quelque chose qui est cher dans, autour de lui, il dit toujours ah, ça va me coûter un bras, ça coûte un bras de quelque chose. Donc du coup j'ai pu utiliser sa phrase pour faire son mot de passe. Donc un bras de, en fait, je l'utilise et ça c'est le début de son mot de passe. Et ben par exemple un bras de, bah il va sur Gmail, bah un bras de Gmail. Alors j'ai changé tous les e en 3, j'ai changé tous les de des e en 2, le chiffre 2, et puis à la fin j'ai mis Gmail, mais tous les a en arrobase et les l en point d'exclamation. Donc en fait j'ai fait un bras de Gmail et un bras de Gmail ça commence à faire 12 caractères. Il y a des symboles, il y a des lettres, il y a des majuscules. Alors les majuscules, bah j'ai mis Gmail en majuscule. Alors Gm mais pas le A, le I et le L, le I et le 1 d'ailleurs même. Et voilà, en fait, j'ai fait un mot de passe dédié à Gmail. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas ce que t'en penses, Thomas.
Si, c'est un bon moyen de, c'est un bon moyen en effet de se générer un
alors,
mot de passe.
Après, c'est sûr que si quelqu'un connaît votre façon de coder, c'est plus compliqué, donc il va falloir la changer. Donc utiliser une ou deux phrases différentes en fonction de vos produits et vous donner des moyens mnémotechniques de se souvenir quels les emails, c'est du courrier, c'est peut-être la poste c'est peut-être je sais pas le Petit Prince, enfin bref, voilà des vous donner une schématique visuelle ou une logique à vous qui vous permet de trouver ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je génère des mots de passe pour être sûr d'être sécurisé au maximum. Par contre, une fois qu'on a créé plein de mots de passe, des fois on peut oublier aussi les mots de passe. Donc on conseille, enfin moi je conseille souvent une application, enfin une extension Chrome qui s'appelle LastPass, qui est compatible Chrome OS, Chromebook, Chrome tout court. Donc du coup, vous pouvez avoir sur tous vos appareils, même sur Mac, Microsoft, Linux et compagnie. Et puis sur mes smartphones et mes tablettes Android. LastPass en fait mémorise vos mots de passe en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc typiquement vous allez sur gmail.com, LastPass va vérifier si dans sa base de données il a noté sécurisé vos identifiants en mot de passe et il va vous les mettre directement, vous aurez plus qu'à faire connecter. Donc l'intérêt de ça c'est que vous n'avez plus que le mot de passe maître à connaître, donc autant le sécuriser au maximum, vous n'aurez plus qu'un seul mot de passe à reconnaître et puis vous pourrez accéder à ça. Donc tu utilises quelque chose de similaire, tu nous en parleras à la fin je crois Thomas, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir un système de mémorisation de mot de passe.
Ouais, c'est ça. En gros, ça permet d'utiliser, de pas avoir à se souvenir de ses mots de passe, en fait, tout simplement. Donc, du coup, on peut générer des mots de passe qui sont bien plus compliqués qu'un mot de passe dont on aurait besoin de se souvenir. Et on a juste un mot de passe principal dont il faut qu'on se rappelle pour déverrouiller le coffre, en fait, dans lequel on stocke tous les mots de passe différents pour chacun des sites. Donc, ouais, moi, j'utilise 1Password, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un peu l'idéal en fait aujourd'hui, c'est se dire que le meilleur mot de passe finalement c'est le mot de passe dont on se rappelle pas et le mot de passe qu'on connaît pas et qu'on n'a pas besoin de connaître.
Et on avait parlé il y a super longtemps, j'avais pas mis dans les notes de l'émission, mais ça me revient à l'esprit, mais Google a commencé à déployer sur le canal Canary le lecteur d'empreintes également. On avait parlé il y a deux émissions, je crois, où ça pourrait être une solution aussi de protection de nos données, puisqu'il faudra poser son empreinte digitale sur ce capteur pour pouvoir accéder à, ne serait-ce que à l'interface, à Chrome OS directement, mais après à tout ce qui peut être derrière de mots de passe et compagnie qu'on peut avoir généré juste avec donc un mot de passe qu'il faudra saisir, et peut-être l'empreinte en plus, ce qui est utilisé régulièrement sur les smartphones. Là, moi, j'ai le S8 Plus en ce moment, j'ai le Honor Plus. Enfin, ils ont tous des capteurs d'empreintes et j'avoue que c'est plutôt sympathique. Ça m'évite de toucher, de taper un code. Donc ça va être sympa. Je pense s'ils peuvent l'intégrer, ça va faire partie d'un mot de passe, sauf que ce sera pas un mot de passe, ce sera un mot de passe physique. Donc, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, en parlant de mots de passe, si vous avez du mal à générer des mots de passe, vu que vous avez plus besoin de les retenir avec LastPass et compagnie, Google a créé un générateur automatique de mots de passe sur Chrome OS. Ça vous propose, donc il faut activer l'option. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Enfin, je vais mettre le lien dans l'émission. Ça génère automatiquement des mots de passe complètement aléatoires, complètement impossibles à retenir. C'est des lettres, enfin tout est mélangé. Donc sincèrement, vous pouvez pas le retenir, ou alors vous êtes très très fort et bravo. Du coup, avec l'ASPA, ça va mémoriser ça, mais ça sera aussi mémorisé sur votre compte Google qui mémorise toutes vos données. Et donc, ça peut être un bon moyen aussi de ne pas se faire pirater en générant un mot de passe complètement aléatoire, donc qui n'a rien à voir avec vous. Donc, il n'y aura pas de votre date de naissance, il n'y aura pas le nom de votre chien, ni la date de mariage de vos enfants ou je sais pas quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement aléatoire. Tu l'utilises, toi, le générateur automatique de mot de passe sur Chrome OS ?
En fait, j'utilise celui de 1Password.
Ok, d'accord. Ouais, donc c'est sensiblement la même chose.
Ça doit être globalement la même chose. Je sais pas si l'avantage de 1Password aussi, c'est que des fois, dans certains services, en fait, vous demandent d'entrer un mot de passe avec, par exemple, deux caractères spéciaux, un nombre, des majuscules, des minuscules. Et ouais, c'est vrai que ça peut être un peu fastidieux des fois de créer un mot de passe qui correspond bien à ces contraintes-là. Et 1Password te permet de faire ça. Donc tu peux cocher ou décocher des options pour avoir un truc plus ou moins long avec plus ou moins de caractères spéciaux, plus ou moins de chiffres, plus ou moins de lettres, etc., etc.
Ah,
est-ce que Google te permet de faire ça aussi ?
Non, il génère automatiquement. Alors peut-être qu'il regarde les critères de génération du mot de passe. Ça, je pourrais pas te le dire. J'ai jamais fait attention. Par contre, ouais, il te balance un... Mais après, t'as des majuscules, t'as des minuscules, t'en as plein, en fait. Il mélange vraiment tout. Donc, c'est, crois que le dernier que j'ai généré, il doit faire 21 caractères. Donc là-dedans, j'imagine que t'as... Bah, peut-être que c'est trop grand, d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui bloquent. Enfin, je sais pas trop, mais pour l'instant, c'est purement aléatoire. Et il me semble pas qu'ils regardent le... Je revérifierai pour te dire, mais sincèrement, je crois pas. Ils sont pas assez forts pour le générer automatiquement en fonction des besoins du site, je pense. Pas encore assez fort. Quand on parle de mot de passe, quand on parle de sécurité sur Internet, on parle aussi d'Internet, hein, forcément. Et pour se connecter à Internet, on est nombreux, voire tous ou presque tous, sauf moi là, je suis pas connecté comme ça, à utiliser une connexion Wi-Fi. Tu utilises une connexion Wi-Fi, j'imagine, au quotidien, Thomas ?
Au quotidien et même en ce moment d'ailleurs, tu vois. Moi, j'ai pas d'Internet, là, je suis sans fil.
Alors moi j'utilise pour le podcast en l'occurrence j'utilise une connexion Ethernet sur mon Chromebook. Enfin j'ai un produit qui me permet de connecter en USB l'Ethernet, en fait j'ai un adaptateur. Et alors le Wi-Fi c'est bien, mais c'est dangereux aussi. Alors c'est pas dangereux, ça fait pas mal, il y a rien de grave si c'est votre Wi-Fi personnel avec votre propre nom de box et votre propre clé de protection, votre propre clé de chiffrement, ça peut être sympa. Simplement vous pouvez personnaliser cette clé. Alors attention, quand vous modifiez votre clé de chiffrement, il existe plusieurs, on va dire protocoles, je pense que ça s'appelle comme ça, des versions qui s'appellent WPA ou WPA2, PSK, des choses comme ça. Donc moi je vous invite à utiliser uniquement ces protocoles là, WPA AES et WPA2, PA2, ouais c'est ça, PSK, au lieu d'une clé classique de chiffrement web. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus facilement craquable, hein, tout simplement, la web, que les deux autres. Alors évidemment, vous êtes, si vous êtes comme moi, on ne possède pas les codes de la bombe nucléaire, on n'a pas forcément, enfin, les hackers n'ont pas forcément d'intérêt à craquer notre clé de protection web pour accéder à nos données. Par contre, ils ont peut-être l'intérêt d'utiliser notre connexion Internet à des fins plus ou moins malhonnêtes. Et du coup, de se servir de votre box. Et du coup, le coupable, c'est le propriétaire de la box. En tout cas, en France, si votre box est décelée, est détectée sur un réseau frauduleux, trafic d'armes et compagnie, enfin je ne sais quoi, piratage de sites Internet gouvernementaux, autre chose comme ça, on remonte à votre adresse IP. Et en France, la loi dit que l'adresse IP est coupable, le propriétaire de l'adresse IP est coupable, en tout cas l'utilisateur principal, le payeur de cette adresse IP est le coupable, à lui de justifier que c'est pas lui qui a fait ça. Donc c'est un peu compliqué pour les non-initiés. Donc du coup, autant se protéger en amont et mettre une clé WPA. Je crois que tous les opérateurs français, par défaut, codent une clé WPA. Je sais pas aux États-Unis quel type de protocole vous utilisez. J'imagine c'est la même chose.
Ça doit dépendre des box. Sachant que les box ici c'est peut-être un peu moins courant que chez vous. Enfin,
ouais.
Ça existe même pas en fait. On te file un modem routeur. Si on marque, certains modem routeurs font aussi la télé, mais c'est quand même moins commun qu'en France.
Ouais, vous avez pas le triple P.
Ça doit dépendre en fait. Non. C'est pas aussi. Enfin, j'exagère un peu. Ça doit pouvoir se trouver, mais c'est beaucoup moins commun que. beaucoup moins commun que, qu'en France, ça c'est sûr.
Bah, le triple play, pour la petite histoire, a été inventé par un Français. Hein.
C'est par Free.
Par Free, par Xavier Niel et Rani Assaf de Grand Pont, ben, qu'on fait bouger le domaine de l'internet en France, qui avait mis des coups de pied à l'époque. Ouais. Et pour la petite histoire, pour avoir discuté avec l'un des deux dernièrement, en fait, ils étaient allés chercher, avant de développer le triple play en France, ils étaient allés chercher cette solution aux États-Unis en se disant, bah aux États-Unis ils ont forcément ça, on va pas s'embêter à fabriquer un truc comme ça, on va aller voir et puis on va signer un partenariat, puis on va le développer en France, c'est tout. Et puis en fait, il y en avait pas, donc quand ils sont revenus en France, ils se sont dit bon bah faut qu'on le fasse et ils l'ont fabriqué. Et ça reste assez français. Hein, le triple play, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont ce système là. Alors je connais pas tous les pays du monde, mais je connais la Suisse, la France et bah du coup grâce à toi les États-Unis. Et en Suisse ils n'ont pas le triple play non plus, hein. Donc on est sur un marché très simple. Donc le problème c'est que c'est tellement simple en France, nos box sont tellement facile à utiliser, c'est que n'importe quel non-initié va utiliser ça et ne connaît pas forcément les différents protocoles de sécurité, alors qu'aux États-Unis vous allez peut-être plus de... Enfin, vous savez ce que c'est qu'un modem routeur déjà. En France, beaucoup ne savent pas.
Ben voilà, c'est ça, ouais. Typiquement, on a rendu le modem routeur de Comcast à la maison et du coup, on a le modem et on a le routeur Wi-Fi qui est connecté au modem. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas forcément un truc qu'on voit très souvent en France.
Ouais, très rarement. Il y a vraiment, chez nous, c'est vraiment les initiés, les geeks, qui sont là-dessus, parce que tous les autres utilisent la box. D'ailleurs, pour eux, Internet, c'est la box, point. Ils savent même pas ce que c'est derrière. Hein. C'est assez amusant, ouais. D'ailleurs, de discuter avec ces gens-là. C'est pas pour se moquer, mais c'est assez intéressant de voir la façon dont perçoivent Internet et les dangers d'Internet, puisqu'on est sur la sécurité. Ils se rendent pas compte du tout qu'un email peut être frauduleux. Pour eux, ils ont encore l'idée du vieux courrier dans leur boîte aux lettres où ça risque rien de l'ouvrir, quoi. Et c'est assez intéressant à regarder. Donc du coup, il faut protéger votre clé, votre Wi-Fi de la maison. Donc c'est pas directement votre Chromebook, encore une fois. Par contre, c'est super important. Et il faut éviter les Wi-Fi publics. Alors tout le monde a des Wi-Fi publics. Dans les gares, il y a des Wi-Fi publics. Dans les restaurants, il y a des Wi-Fi publics. Aux États-Unis, il y en a partout aussi, je pense. C'est les points. On appelle ça aussi des hotspots, des points chauds. Ils doivent vendre des croissants à côté, pas loin, je crois. Bref, les hotspots permettent de se connecter, d'avoir une connexion Internet un peu n'importe où. Il faut s'en méfier comme de la peste. Parce que tout le monde a accès à vos données qui transitent sur les hotspots. Donc, si vous voulez vous connecter à un Wi-Fi public avec votre Chromebook, utilisez un VPN. Alors, c'est pas miraculeux non plus, un VPN, ça fait pas de la magie, mais ça permet de chiffrer quand même quelques informations que vous échangez avec les serveurs. Et ça complexifie un peu la tâche du hacker qui aimerait s'emparer de vos données au moment où vous échangez. Moi, j'en utilise de temps en temps. J'ai des VPN gratuits qui s'appellent Hola VPN, par exemple, qui fonctionnent très bien avec mon Chromebook. On en avait parlé dans tout premier podcast, je crois. Je remettrai le lien de toute façon. Tu utilises des VPN, toi, Thomas ? Alors, VPN, d'ailleurs, avant de dire ce que c'est, avant de dire que tu utilises, qu'est-ce que c'est un VPN, en fait ? Parce que
juste attends alors que j'allais dire que je l'utilisais ou pas. VPN, donc ça veut dire Virtual Private Network, c'est ça non? Donc l'idée c'est en gros de créer un espèce de tunnel entre l'appareil qu'on utilise et un autre réseau, et du coup potentiellement faire croire par exemple à Internet qu'on n'est pas là où on est, mais qu'on est connecté à partir d'un autre endroit, par exemple.
Je t'entends parler de Netflix, je t'entends parler de... non, c'est en film, directeur en fond, mais je crois que Netflix, il se bat contre ça.
Ouais. Ouais, alors en l'occurrence, Netflix, ouais, ça marche pas forcément très bien, mais c'est vrai que quand je vis en France et que j'ai besoin d'accéder à certains services aux États-Unis, et ben du coup, j'utilise un VPN, et réciproquement, quand je suis ici et que j'ai envie d'utiliser certains services disponibles en France, et ben je peux aussi utiliser de temps en temps un VPN, mais là, toi, je pense que tu en parles plutôt dans le contexte
la de sécurité, la sécurité, oui, c'est pas pour pirater ou voilà, sans ça. Donc
ouais. L'idée c'est
de sécuriser les données.
L'idée, j'allais dire, c'est de... Voilà, c'est ça, c'est de faire en sorte que ce qui transite sur le Wi-Fi, ça transite pas en clair, et donc du coup que la personne qui vous fournit l'accès au Wi-Fi, en fait, vous ne puisse pas voir ce qui passe sur le réseau.
Ouais, c'est ça. Donc sécuriser ça. Ensuite, petite chose, là on se rapproche plus des Chromebooks. Les Chromebooks accèdent à toutes les applications. Enfin, vous pouvez télécharger des applications, des extensions, des jeux, des plein de trucs, que ça soit Android ou Chrome OS. Il faut savoir que quand vous installez tout ça, à un moment donné, vous ne l'utilisez plus, donc vous allez arrêter de vous en servir. Par contre, n'oubliez pas de le désinstaller parce que il garde des accès à vos données. Il va accéder aux informations de votre profil, voir certains au compte complet de votre, à l'intégralité de votre compte, également à la lecture et à l'écriture de votre compte. Donc bref, vous n'utilisez plus une application, supprimez-la purement et simplement, ça sert à rien de la conserver. Surtout que ça peut être vendu à un développeur tiers qui pourra peut-être utiliser ça à votre place, et se servir plus méchamment que le premier qui vous avait cédé tout ça. Donc on supprime régulièrement. Ensuite, si on va sur les Chromebooks, on va aller plutôt rapidement parce que là on a déjà une émission qui dure et je pense que vous avez plein de choses à faire de votre journée. Donc pour protéger vos Chromebooks, Google lui s'y affaire au quotidien avec une mise à jour automatique. Donc vos Chromebooks sont mis à jour automatiquement via OTA, donc over the air, ça veut dire sans rien faire. Il faut rebooter votre ordinateur, c'est tout ce que vous avez à faire. Et ça, on l'oublie beaucoup pour les utilisateurs de Chromebook, mais c'est juste génial. On ne passe pas 3 ans à faire une mise à jour, on n'attend pas devant son écran les différents pourcentages qui montent progressivement et on n'est pas obligé de la faire manuellement. Chrome OS se débrouille comme un grand pour faire ça. C'est également valable pour les extensions, les applications Android et Chrome OS. Donc ça, c'est juste génial. Rien à faire, ça se fait automatiquement. Sandboxing aussi. Google a un système qui s'appelle Sandboxing qui permet, quand vous naviguez sur une page web via son navigateur Chrome, d'exécuter cette page web, l'application également, dans un univers complètement restreint qui s'appelle Sandbox, qui permet, en cas de page infectée, de logiciel infecté, de pouvoir tuer cette tâche sans impliquer ou sans limiter l'accès aux autres applications, sans qu'en tout cas votre OS soit touché par cette application ou cette navigation. Donc ça permet de contenir la menace à un seul écran, à un seul onglet. Et ça c'est génial, vous avez juste à le fermer et puis hop, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc ça c'est juste génial. Et ça sur Chromebook, franchement vous en rendez peut-être pas compte, quoique maintenant il y a un message d'erreur qui apparaît en vous disant attention, il y a un problème sur cette page, voulez-vous continuer ou pas, et puis Google vous prévient, vous fermez la page ou vous êtes convaincu de trucs et puis vous l'écrasez vous-même et vous allez continuer sur le site. Autre chose super intéressant, Google vérifie, enfin Chromebook, votre Chromebook, à chaque fois qu'il démarre, il vérifie son OS. C'est le Verified Boot, qui, dès que vous démarrez, il va vérifier si votre OS n'est pas vérolé, s'il n'est pas corrompu, s'il n'a pas un problème, un bug quelconque. Et si c'est le cas, il va rebooter automatiquement sur le système d'exploitation le plus stable, enfin le système qui était le plus en état, enfin celui qui fonctionnait parfaitement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et il va vous réinstaller ce système-là. Et puis c'est tout simplement, vous pourrez repartir comme si rien n'était. Et ça, c'est juste génial. Je sais pas si tu as déjà eu accès à ça. Mais moi je trouve ça génial.
Ah ouais, ça m'est déjà arrivé de réutiliser une image ouais, précédente.
Donc ça se fait plutôt bien. Si on continue dans la sécurité, Chrome, les applications sur Chromebook, quand vous les utilisez, elles stockent vos données. Par contre, elles stockent vos données en sécurité et sur le cloud. Donc elles sécurisent vos données. Elles sont pas forcément directement dans l'application, mais stockées sur le cloud de Google et elles sont cryptées. Alors, en combien de bits, j'en sais rien, mais je crois que c'est du 128 bits de souvenir. Je crois pas qu'il soit passé au 256, mais c'est déjà énorme. Et ça permet de sécuriser au maximum les informations qui transitent à travers des applications, à travers les sites web. Encore une fois, Chromebook et Chrome OS sécurisent vos données personnelles pour éviter qu'elles se baladent partout, qu'elles soient récupérées par tout le monde et pour rien. Et enfin, dernière chose, et je vous laisse tranquille sur la sécurité, mais c'était important d'en parler, c'est le mode de récupération de nos Chromebooks. Eh ben, il s'avère que ça possible, votre Chromebook peut avoir des problèmes, le système de boot vérifié n'a pas forcément marché, enfin où il y a eu beaucoup de problèmes au démarrage, vous pouvez vous-même passer sur le mode de récupération et via une séquence de touches clavier, vous pourrez restaurer votre système d'exploitation vous-même sur la dernière bonne version connue. Donc ça c'est sympa, vous n'êtes pas obligé, même en plein milieu, même si vous n'avez pas rebooté votre Chromebook, vous pouvez aller chercher vous-même la mise à jour. Et ça, c'est juste génial. Pareil, je vous laisserai ceci dans la note de l'émission. Enfin bref, vous l'aurez compris, la sécurité sur nos Chromebooks, c'est pas une chose que Google néglige. Et donc, il est important de vous avoir une bonne hygiène numérique. C'est super important pour vous et pour vos données. Et puis peut-être pour votre compte bancaire au plus tard. Enfin voilà, on a terminé sur ce dossier. Je pense que... Est-ce que tu avais d'autres choses
non,
à dire
écoute,
dessus, Thomas?
C'était un dossier particulièrement complet. Et donc, j'ai rien à ajouter. Comme d'habitude, tu as fait un super boulot pour tout lister et nous donner toutes les informations.
Alors moi je serais, je te remercie, c'est avec plaisir que j'ai fait ça et que je partage avec vous, mais si vous avez des idées, si vous auditeurs vous avez d'autres solutions pour sécuriser vos Chromebooks, peu importe ce que c'est, laissez-nous des commentaires, ça serait avec grande joie et une grosse curiosité de savoir comment vous protégez vos appareils dans la suite donc du podcast via le blog ou sur les réseaux sociaux et compagnie. N'hésitez pas à échanger avec nous. En tout cas, moi, je suis preneur de sécurité. Plus j'ai de sécurité, plus je me sens en sécurité, plus peut-être plus c'est contraignant, mais plus c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Donc du coup, j'attends vos retours et avant de vous quitter, avant de clôturer complètement ce podcast, j'aimerais remercier toujours nos tipeurs qui sont toujours là. Tous les premiers sont encore là, les derniers sont encore là. Je vais pas tous vous citer aujourd'hui parce que bon, on est déjà à plus d'une heure de podcast, donc je vais pas rallonger tout ça. Par contre, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie d'avoir tous tipé. Ça va de 1 à 10€, je crois, par mois, ce qui nous permet de faire des acquisitions, de faire des tests pour vous, d'échanger plus et surtout de motiver encore plus en se disant, bah, on a des patrons, on est obligé de leur donner un contenu intéressant. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, Thomas, mais moi c'est un peu enfin, je me sens obligé de vous donner un contenu de qualité et de m'améliorer au quotidien.
Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par le contenu n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins bien. On est toujours à la recherche de compliments pour pouvoir nous améliorer.
De compliments aussi
oui. Mais bon, tout ce qui est constructif, on prend.
Voilà, mais c'est important. Le podcast pour la petite histoire est suivi maintenant par 133 auditeurs, donc ça fluctue régulièrement, mais on est stable à 133, donc ça monte un peu plus, ça descend un petit peu, mais en moyenne on est à 133, donc je suis plutôt content puisque on ne perd personne, au contraire on en gagne. Alors c'est pas encore les millions d'auditeurs qu'on aimerait avoir, mais on est en bonne voie et ils nous quittent pas, tous ceux qui nous écoutent, donc c'est plaisant, ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça et qu'on a sûrement des choses à modifier, mais on n'est pas si mauvais que ça, donc c'est génial. Merci à eux de nous écouter au quotidien. Et là, on vous donne de quoi écouter l'aller-retour pour votre travail, hein, je pense, hein, aujourd'hui. Je vais remercier aussi. Alors, je vais pas les nommer tous, mais juste. Alors, il y a une communauté, la communauté My Chromebook qui est sur Google+. Ceux qui nous écoutent sont sûrement dessus. Et pour la petite info, on a passé les 1000 suiveurs. Je sais pas comment ça s'appelle sur Google+. Les 1000 Googlers. Je suis juste hyper fier, hyper content. Ça monte progressivement. Et surtout, c'est ceux qui sont dessus, tous ceux qui nous suivent échangent énormément entre eux, ce qui fait une communauté vraiment géniale. Vous avez un problème avec un Chromebook, Chrome OS, Chrome ou quoi que ce soit qui est autour de Chrome, autour d'un Chromebook ou de Chrome OS, vous posez la question et souvent dans la journée vous avez la réponse. Et même s'ils n'ont pas les réponses, ils donnent des pistes pour s'améliorer. Et vraiment génial. Et du coup, je me suis dit, allez, je suis un dingue. Ce mois-ci, enfin au mois de juillet, pour fêter les 1000 suiveurs, je sais pas, je vais lancer un petit jeu concours sur Google+. Je sais pas encore ce que je vais vous faire gagner. Je suis en train de voir avec des constructeurs autour de moi, avec des fabricants d'accessoires, si je peux pas faire un beau petit lot à vous faire gagner. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais j'ai envie de vous faire gagner quelque chose pour vous remercier. Et donc les tipeurs qui ont payé jusqu'à aujourd'hui, ben l'argent on l'a encore pas dépensé, donc je vais le dépenser là-dedans. Je sais pas combien j'ai gagné dessus. Ça doit être, alors c'est pas énorme, mais c'est bien assez pour vous faire un petit cadeau. Et on va faire ça. Donc vous pourrez tous y jouer. La seule condition, c'est de nous suivre en fait, tout simplement. Et de toute façon, si vous nous suivez pas, vous saurez pas qu'il y a de concours. Donc normalement, vous devez nous suivre. Je vais remercier aussi. Hein, on est d'accord, Thomas.
Ouais,
si 100% des gagnants ont tenté leur chance. Moi, je vais remercier encore une fois une autre personne, mais je pense que tu me rejoins encore une fois dessus. Je vais remercier Mathieu. Mathieu, prof du web, alias prof du web, alias le M podcast, alias l'éclectique show, alias je sais pas, il en fait tellement, il est tellement présent sur les podcasts, il est tellement, c'est un peu notre gourou, c'est un peu notre maître à penser. Et j'avais proposé pour ce podcast de se joindre à nous, mais on a eu quelques difficultés avec Thomas de se synchroniser. Alors c'était compliqué d'imposer une date à Mathieu, mais on espère les prochains podcasts qui nous rejoindra et puis qui nous fera un petit coucou pour parler des Chromebooks. Alors pour moi c'est tout, je vais remercier une dernière personne, toi Thomas, merci, sans toi comme d'habitude le podcast ne serait pas là, je n'aurais pas eu le courage de continuer tout seul, enfin de le faire tout seul en fait, je me sentais pas le courage, donc toujours avec toi, avec tes idées, avec ton décalage horaire, ça m'amuse et j'adore discuter, échanger avec toi, même si on est plutôt souvent sur la même longueur d'onde, tu m'apportes des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, le codage par exemple, c'est pas mon truc. Donc merci à toi de participer au podcast, et puis j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Et vu que je te remercie, vu que je te vois rougir derrière ton écran, je te laisse comme d'habitude le mot de la fin, parce que tu le mérites bien. Voilà, merci à tout le monde, merci à toi, merci et à très bientôt sur le CKB Show, sur My Chromebook, et puis vous nous retrouverez tous sur Twitter, sur Google+, on vous mettra les liens, je te laisserai même donner ton pseudo Twitter comme d'habitude, et puis moi je vous abandonne, et bonne journée et merci à tous.
Ouais, voilà, donc ça fait beaucoup de merci, donc un merci de plus, merci à tous encore une fois, et donc moi c'est @lethargicpanda sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous faire signe, à nous poser des questions, et puis c'était toujours un plaisir, et sur ce, il est bientôt 1h du matin ici, et je t'avoue que la semaine a été longue, donc voilà, ciao à tous, et puis moi je vais aller dormir, allez, à la prochaine.